Fatcheré, Saint-Jeudard, 1984-1985, 9 mai 1985.
Je voudrais continuer ce que nous avons fait jusque maintenant, c'est-à-dire après l'inspiration, s'arrêter à ce que je crois qu'on peut dénommer le choix artistique, le choix créateur. On parle beaucoup de la création artistique. Hein. Alors évidemment, c'est très métaphorique quand on dit ça. Il faut saisir philosophiquement ce que ça veut dire. Cette parole d'Aristote, je crois, sur laquelle il faut beaucoup réfléchir, l'art, c'est le logos de l'œuvre. Le logos sans la matière. C'est très fort comme affirmation. C'est le logos de l'œuvre, l'art. Autrement dit, comme dit saint Thomas, dans l'esprit de celui qui construit préexiste la similitude de la maison. Saint-Jeudard préexiste dans l'esprit de celui qui l'a construit, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on peut l'appeler l'idéa de la matière, car l'artisan tend à faire la maison semblable à la forme qu'il a conçue dans son esprit. Tout le problème classique, au point de vue philosophique thomiste, de ce que représente l'idéal. Nous avons vu l'inspiration. Nous avons essayé de saisir l'inspiration d'une source. Je crois avoir suffisamment insisté là-dessus. L'inspiration est une source. Comme une source est toujours cachée, une source est toujours très difficile à préciser. Vous découvrez la source par son jaillissement. Sauf si vous êtes sourcier, alors il doit y avoir une source là. Mais ça, c'est une. A priori, il doit y avoir une source là. Puis vous creusez, vous découvrez une source. Une source, c'est un jaillissement. Vous le découvrez par un jaillissement. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la source. C'est très curieux. Donc, c'est un principe. Alors, il faut passer de la source à l'idéal. Et l'idéal, c'est le logos de la. C'est l'idéal qui nous donne la mesure, l'intelligence de l'œuvre. C'est le logos de l'œuvre, l'idéal. C'est un logos très particulier. C'est là on voit que le terme logos chez Aristote prend des modalités extrêmement différentes. Je vous avais dit, hein, pour que vous compreniez bien cette petite étude philosophique qui est difficile et qui est très intéressante, parce que c'est quand même quelque chose d'important de saisir la formation de l'idéal. Donc, c'est là où on est en présence d'un choix créateur. Je crois qu'il faut dire choix créateur plutôt que création artistique. Il y a un choix créateur. Là, du côté du choix, il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui implique un renouveau comme la création. Ce n'est pas à partir de rien, puisqu'il y a la matière. La matière est présupposée, ce n'est pas ex nihilo, c'est à partir de la matière. Et l'œuvre, c'est justement l'idéal, le logos. Oui, logos dans la matière, c'est l'œuvre. C'est la matière qui est animée de façon nouvelle. C'est la matière qui s'exprime autrement. C'est ça le propre, justement, de l'œuvre. C'est une expression nouvelle. Et l'idéal, c'est justement de l'ordre, c'est ce qui mesure cette expression. Dans l'œuvre, il y a l'expression. L'expression qui se manifeste, qui se dit. Alors il faut bien toujours comprendre ce que je crois vous avoir dit la dernière fois, rapidement, le point de vue du concept, dans le langage de saint Thomas, le verbe. Vous voyez, c'est intéressant de voir que saint Thomas met concept ou verbe. Et dans la succession philosophique, c'est le mot concept qui est resté, et le mot verbe, on l'a laissé aux théologiens. Toujours intéressant de voir ce partage des eaux. Pour saint Thomas, il emploie concept et le verbe. Le verbe, verbum mantis, le verbe de l'esprit. Pas la parole. La différence entre le verbe et la parole, chez saint Thomas, c'est très net. Le verbe, c'est ce qu'on conçoit intérieurement. Donc le verbe est toujours caché. Il faut le découvrir, le verbe, vous ne le voyez pas. Quand vous me regardez, je ne sais pas si vous pensez pas. La vache qui regarde le train passer, quel est son verbe intérieur, c'est difficile à savoir. Donc le verbe, c'est quelque chose d'intérieur. Je ne peux pas le saisir. Je le saisis à travers la parole. La parole vivante, c'est la parole liée au verbe. Le verbe est présent dans la parole. Et une parole morte, c'est quand vous répétez. Quand vous répétez, il n'y a pas de verbe. Il n'y a qu'une vague image. Vous répétez. Répétition de chant. Vous répétez. Alors, il faudrait que la répétition de chant soit liée au verbe intérieur. Alors à ce moment-là, c'est une prière. La répétition de chant, c'est une prière. Si c'est qu'une répétition, non. Puisque c'est fait en vue. C'est très important de saisir ces choses-là. Parce que c'est là où on voit tout de suite la différence entre le point de vue verbe, le concept de l'esprit, le concept intérieur, verbum. Mantis ou verbum cordis, comme dit saint Thomas. Alors vous êtes le concept, l'idée et le secret. Il faut toujours saisir ces différents aspects. En parallèle, alors je précise ici, ceci c'est de l'ordre de la critique, ce que nous faisons là. Vous voyez bien. Réflexion critique. L'intelligence se noue. De trois manières. Il y a trois nœuds de l'intelligence. Il y a le concept. C'est l'intelligence spéculative. L'intelligence contemplative, l'intelligence spéculative. L'idéal, c'est l'intelligence artistique. Poétique, je ne sais pas comment vous l'appelez, dites poétique à la manière de Maritain, c'est l'intelligence poétique. L'intelligence poétique, il y a en elle un nœud, l'idéa, et l'intelligence affective, le secret. Vous pourriez pousser plus loin, parce que vous pourriez dire, dans l'intelligence affective, il y a aussi l'intention. L'intention, c'est un secret, l'intention. Qu'est-ce qui peut connaître vos intentions profondes? Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Il y a des intentions de vie. Une intention de vie, c'est un secret. Alors, c'est au niveau du prudence. C'est l'intelligence affective au niveau de la prudence. Tandis que le secret, c'est au niveau de la personne, normalement. Quand vous aimez quelqu'un, cette personne devient pour vous un secret. Vous ne dites pas c'est une intention. Tandis que quand vous avez le désir d'être un saint, vous avez une intention de vie. Pas la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'intention? C'est la finalité présente au plus intime de vous. Elle est déjà présente. Vous la portez en vous, c'est donc un secret. Qu'est-ce que c'est que le secret? C'est la vie que vous portez en vous. Un secret, c'est ça. Alors, il y a des secrets de Polichinelle, il y a le secret de celui qui... Le secret de Polichinelle, c'est bien ce que c'est. C'est tout simplement, aujourd'hui, il y aura une sauce particulière. C'est un secret. L'enfant, en réalité, c'est une idée. C'est un projet. Le projet est une idée. C'est toutes les analogies qu'on pourrait essayer de saisir. qui nous ferait comprendre comment l'intelligence se noue à des niveaux différents. Je crois qu'on peut dire le projet est à l'intention, ce que le secret est à l'idéal. Je répète cette analogie. Le projet est à l'intention, ce que le secret est à l'idéal. L'idéal peut se transformer en projet. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le secret peut être aussi une intention. Le secret est quelque chose de plus profond, c'est plus affectif. Et le secret touche la personne. Le vrai secret touche la personne. Ou touche les activités d'une personne. Telle action personnelle est un secret. Le secret est toujours lié à une personne. Vis-à-vis de son activité, vis-à-vis de telle ou telle de ses actions. Là, c'est un secret. Le secret, ça nous. C'est une chose très curieuse du secret. Les vrais secrets nous lient à la personne que nous aimons et nous séparent des autres. C'est le propre du secret. Le secret nous lie à la personne que nous aimons et fait l'unité avec cette personne. Et en même temps, nous sépare tous les autres. On les sépare. C'est pour ça que les secrets sont quelquefois lourds à porter. Parce que ça nous sépare. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire porter aux enfants des secrets. Ça les écrase. Je te dis ça à toi, mais surtout ne le dis pas. Alors, on est séparés. Quand vous portez un grand secret, vous êtes séparés des autres. Vous ne pouvez plus rien dire. Le secret nous lie à la personne qu'on aime. C'est la personne qu'on aime qui est présente en nous. La clôture, c'est un secret. Ça nous sépare des autres pour nous unir à celui qu'on aime. C'est ça le propre de la clôture. Alors, le secret, l'intention de vie, c'est ce que nous portons en nous, c'est la finalité. Ça, c'est la personne, ça, c'est la fin. Et toute la relation qui est entre fin et personne. La personne, c'est mon bien. Le bien et la fin. Le secret est à l'intention. Alors, l'idéal, c'est au niveau de l'œuvre. On le voit, c'est l'œuvre. La différence entre la personne et l'œuvre. Et puis, le projet, c'est la réalisation de cette œuvre. C'est toute la manière dont on doit réaliser cette œuvre. C'est tout la tension. C'est toute la tension vers cette œuvre. Exactement comme l'intention me tend vers la fin. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. C'est toujours quelque chose que je porte au-dedans de moi-même. Et c'est ça qui est important à saisir. Alors, précisons encore, parce que ça c'est intéressant à saisir, si on veut vraiment, au point de vue philosophique, comprendre la différence qui existe entre l'idéal et le concept. Le concept, qu'est-ce que c'est ? Le concept, c'est quelque chose que vous découvrez au plus intime de votre vie intellectuelle comme un fruit intérieur. C'est une forme intentionnelle, le concept. C'est une forme intentionnelle, c'est un fruit. Un fruit intérieur. Le concept, c'est le fruit de l'appréhension. En premier lieu, c'est l'appréhension qui forme les concepts. Le jugement aussi forme un concept. Mais ce n'est pas le premier concept. Le concept au sens tout à fait fort, c'est l'appréhension. Parce que par le concept, j'assimile ce que je connais. Et c'est pour ça qu'on dira que le concept, c'est un gros. Ça, c'est le langage scolastique. Que Saint-Thomas emploie, de ça. C'est un cours. C'est ce par quoi je connais. Je connais par le concept. Mon intelligence forme en elle-même cette forme intentionnelle qui me permet d'atteindre la réalité. Mais vous comprenez que je ne peux dire ça que dans une analyse critique. Je n'ai pas la connaissance immédiate du concept. Je découvre que pour connaître la réalité, pour atteindre la réalité, pour dire chat, en regardant le petit chat, pour dire chat, il faut que j'ai le concept du chat. Et je découvre le concept du chat par ma parole. Dans la parole est présent le concept, est présent le verbe. Ce que j'ai conçu au plus intime de moi-même, et ce que j'ai conçu au plus intime de moi-même, c'est cette forme intentionnelle. Je prends ici tout de suite, hein, pour que au moins vous l'ayez entendu plusieurs fois dans votre vie, le langage de saint Thomas. Saint Thomas appelle cette forme intentionnelle le concept, il l'appelle le verbe, il l'appelle species, expressant. Intéressant comme langage. Ça, c'est tout à fait scolastique, ça n'a pas de, ça n'a plus existé. Là. Vous pouvez trouver dans Sartre concept, mais vous ne trouvez ni verbe ni species expressant. C'est un langage qui a été très très déterminé à une époque, ça n'a pas pu passer. Species in present. Species, qui traduit eidos. Donc c'est la forme. Et en scolastique, on dira species. Mais en réalité, c'est forme. C'est une forme intentionnelle, expressa, donc celle qui est parfaitement explicitée. Et la species in present se distingue de ce qu'on appellera la species impressante. Donc ça, il faut le savoir. Hein. C'est une terminologie qu'il faut apprendre. Il faut savoir cette terminologie-là. Parce que vous pouvez la remontrer dans saint Thomas, mais c'est pour vous arrêter. Species impressante, qu'est-ce que ça veut dire, species impressante? C'est la forme qui détermine. Oui, c'est l'image du sceau. Et c'est vraiment l'image du sceau. Quand vous prenez un sceau sur de la scène, c'est l'empreinte digitale au niveau de l'intelligence. C'est la détermination, la forme qui imprime son intelligence. L'intelligence est réceptive. Elle est tabula rasa. C'est-à-dire qu'elle est dans cette réceptivité radicale, prête à être déterminé par toutes les réalités qui sont présentes. Cette réceptivité de l'intelligence, cette réceptivité radicale de l'intelligence que je saisis dans l'appréhension, fait que l'intelligence se laisse impressionner. Et quand on est impressionné, Aristote appelle ça les pâtés. Je vais le dire en grec, ça va. Pâté, la passion, on est impressionné. On pâtit. L'intelligence pâtit. La première attitude de l'intelligence. On est intelligent dans la mesure où on est impressionné. Les gens qui ne sont pas impressionnés ne sont pas intelligents. Et c'est vrai, ça. Il faut garder la capacité d'être impressionné. Si vous n'êtes plus impressionné du tout, vous êtes blasé. Quand on est blasé, on est plus intelligent. Parce qu'on applique ses idées aux autres. On a des catégories. Ah oui, non, je suis très bien. J'ai déjà vu ça. Oui, j'ai déjà vu ça. Donc vous ne regardez plus l'individu, vous en référez à l'autre que vous connaissez déjà. Ça, c'est le guide. Hôtel, 3 étoiles. Ah oui, je vous donne très bien ce souci. Et là, on a l'idée a priori. Et si ça ne correspond pas à tout ça, ah non, ça ne correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Si vous êtes impressionné, vous regardez chaque individu tel qu'il est, dans son originalité propre. On a beaucoup de peine de garder ça. Ça, c'est la fraîcheur de l'intelligence. La fraîcheur de l'intelligence, c'est d'être capable d'être impressionné par l'individu. Ah, j'ai jamais vu cette tête-là. On dit ça quand on est devant une tête extraordinaire. J'ai jamais vu une tête comme ça. Enfin, c'est une tête de prophète de l'Ancien Testament. Amos. Oui, c'est extraordinaire, Amos. C'est une tête de l'Ancien Testament. Bon, un prophète de la... On est tellement habitué d'habitude, hein, qu'on n'est plus impressionné. On est blasé. Alors, une intelligence blasée, c'est une intelligence qui ne se laisse plus impressionner. Une intelligence qui se laisse impressionner, c'est une intelligence dans cette attitude où elle est capable de pâtir. Celui qui se laisse impressionner, il est capable de pâtir. Alors il se laisse impressionner par species. C'est la détermination de la réalité, c'est la qualité, la détermination, la forme. La réalité a des déterminations. Or, les déterminations, c'est quelquefois la figura. Première fois que vous avez rencontré un animal extraordinaire, dans un zoo, vous n'avez pas encore vu un animal extraordinaire, ce museau extraordinaire. Alors, vous speeches impressa, votre intelligence est impressionnée. Elle est impressionnée, elle est. Alors, ça, speeches impressa, c'est la forme intentionnelle qui marque l'intelligence. Et cette speeches impressa, elle provient de l'image. Alors, c'est le passage de l'image à la speeches impressa. C'est ça tout problème de l'appréhension. Mon intelligence est capable d'être réceptive. Et elle est radicalement réceptive. Alors ça, les brillants, ça présuppose toute cette analyse critique. On précise qu'est-ce que c'est que l'appréhension, qu'est-ce que c'est que le jugement. C'est dans l'appréhension que vous êtes réceptif. Dans le jugement, vous discernez. Donc vous êtes bien plus actif. Oui.
Quelle différence avec l'acuité ?
Ah, l'acuité, c'est du côté objectif. C'est l'acuité, c'est ce qui impressionne. Tandis que là, je suis impressionné. Actif ou passif. L'acuité, c'est justement la détermination dans la réalité qui m'impressionne. L'aspect de chez impressa, son contenu formel, sa détermination, c'est l'acuité. C'est l'acuité qui impressionne l'intelligence. C'est l'acuité, c'est-à-dire l'intelligibilité profonde du côté de la réalité. Dans la réalité, c'est objectif l'acuité. Tandis qu'ici, je suis du côté subjectif de l'intelligence qui reçoit et qui se laisse impressionner par cette forme intentionnelle qui détermine. C'est pour ça qu'on parle pâté de l'âme. L'âme qui pâtit. Vous voyez bien, forme intentionnelle qui est en référence avec l'acuité. Alors vous pourriez dire, que cette species impressa, c'est l'acuité dans l'âme. Vous voyez dans quel sens ? C'est cette forme intentionnelle qui signifie l'acuité. C'est l'acuité qui a impressionné l'âme, la détermination profonde de la réalité, ce qui est d'essentiel dans la réalité, qui a impressionné l'âme et qui fait que l'âme reçoit cette forme intelligible. Cette forme intentionnelle, cette forme intelligible, donc cette species impressa, provient de l'image, vous allez voir du parcours, qui elle-même est en face de la réalité. La réalité existante, je la représente dans l'image, et grâce à l'activité de l'intelligence, à partir de l'image, va se former en moi la species impressa. Vous voyez le passage. Cette réalité, elle applique une cuité. Cette réalité, ce champ singulier, il applique une cuité. Tel animal, il a des yeux de chat. Il a un comportement de chat, c'est pour ça que c'est un chat. Ça, vous voyez, après, les cas regarder un chat courir, vous êtes 3 minutes, puis c'est un chat, c'est évident. Dans le noir, vous avez du bruit comme ça, tout d'un coup, puis vous discernez, c'est un chat. Vous saisissez à ce moment-là l'acuité. Quand vous dites chat, vous saisissez l'acuité, sa signification. L'acuité exprime ce qu'il y a d'essentiel dans la réalité. Vous pouvez représenter l'image d'une représentation. Et l'aspect de chef, à partir de cette représentation, il y a sur l'intelligence quelque chose qui imprime l'intelligence. Et c'est l'aspect de chef qui ferait ça. Et l'aspect de chef qui ferait ça, alors elle est directement en relation avec l'activité. L'image représente la réalité singulière. C'est pour ça que l'image est toujours singulière. Tandis que le passage de l'image à la species impressa se fait sous l'influence de ce qu'on appellera l'intellect agent. L'intellect agent, c'est l'illusion. illumination de mon intelligence par rapport à l'image. Donc, il y a un projecteur qui est l'intelligence. Vous l'avez tous en vous. Plus ou moins agent. C'est-à-dire plus ou moins actif. Souvent, vous êtes plus ou moins éveillé. Les gens qui n'ont tellement amorphe contre leur intelligence, qui restent dans le domaine des images. C'est beaucoup moins fatigant. Alors vous avez des images successives. C'est comme ça que vous abrutissez les gens. Vous abrutissez les gens en multipliant les images. Quand vous êtes tellement habitué de regarder la télévision, au bout d'un certain temps, vous ne pensez plus, et de la télévision, vous allez dormir. Et c'est vrai, la multiplication des images au bout d'un certain temps empêche de penser. Et vous restez donc au niveau de l'image, c'est un truc très connu sur le point de vue psychologique, c'est comme ça que vous abrutissez les gens, et vous arrivez à les manipuler. Multiplier les images permet la manipulation des gens. Parce que vous pouvez, par des associations d'images, faire qu'on reste au niveau de l'image. Le grand passage, c'est le passage de la représentation des images qui ne me donne pas la crédité, hein, les images. Les images représentent la réalité extérieure. Et de cette réalité extérieure représentée dans l'image, l'intellect agent, c'est-à-dire l'appétit profond de l'intelligence qui veut connaître. Il faut vouloir connaître pour connaître. Si je suis dans un bon fauteuil, un très bon fauteuil, ayant bien mangé, ayant bien bu, je suis uniquement capable de recevoir des représentations successives. J'entends vaguement. Ce qui m'intéresse, c'est l'image. Et les images les plus extraordinaires qui passent. Je ne pense plus. Je suis endormi. Le rêve éveillé, et je reste au niveau des images. La plupart des gens, dit saint Thomas, je ne sais pas ce qu'il dit aujourd'hui, la plupart des gens, ut in pluribus, ils demeurent dans l'image. Et ça, c'est vrai. Et, vous voyez, un gouvernement qui n'est pas en vue du bien de l'homme, et qui est uniquement en vue de son propre bien, veut endormir les gens, veut les téléguider. Alors, on les téléguide par le point de vue de la représentation. Je crois que c'est le propre du point de vue partisan, ça. Vous voyez, de droite ou de gauche, ça revient au même. C'est exactement la même chose. C'est le point de vue des représentations. Et par les représentations, on pourrait les téléguider comme on voudra. Alors, on endort l'intelligence. Il y a un procédé extraordinaire d'endormir l'intelligence pour qu'on reste uniquement au niveau des images et uniquement au niveau des représentations. Si au contraire, vous vous éveillez, vous voulez comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, à ce moment-là, vous vous réveillez. C'est votre intellect agent. Et l'intellect agent n'est en acte que si vous le voulez. Vous voulez comprendre, je veux savoir ce que c'est. Vous savez, vous lisez un livre, très bien, vous êtes entre le dormamonier. Vous lisez un livre, vous lisez, oui, il y a des images qui suivent, surtout s'il y a des images, vous lisez. Puis tout d'un coup, vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris depuis le début. Vous vous réveillez, vous vous réveillez, c'est votre intellect agent qui se réveille. Et alors, au-delà des images, va apparaître le species impressa. C'est la forme qui vient s'imprimer sur votre intelligence. Et cette forme qui s'imprime sur votre intelligence, elle a une signification. C'est le passage de la représentation à la signification. Et ça, c'est capital. C'est le passage du sensible individuel à l'intelligible universel. L'intellect agent est source de l'abstraction. se fait par une abstraction. On passe du sensible, individuel, à quelque chose qui est une forme universelle. Ça, c'est capital, hein. Il faut y réfléchir beaucoup. Point de vue critique, c'est un des problèmes les plus intéressants. C'est le passage de la représentation au passage de la signification. Puis en même temps, c'est le grand problème actuel. Tous les philosophes se demandent d'où ça vient la signification. C'est le grand problème de toute la philosophie. D'où ça vient la signification? Est-ce que la signification vient de la réalité ou est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui applique au champ la signification, la dénomination champ? C'est le problème du nom. Est-ce que c'est l'intelligence qui applique la dénomination ou est-ce que le champ possède en lui une idée? Non, mais Paul de Tempou, mon petit ami, est-ce que tu possèdes une pluie? Et il répondra oui. Je possède en moi une cuidité, la cuidité chat. Ça, c'est votre intelligence qui découvre cette cuidité. Vous voyez, la cuidité, elle est à l'intérieur de cette réalité. À l'intérieur de cette réalité existante. Elle a une intelligibilité. Elle a une certaine intelligibilité. Le champ, il a une certaine intelligibilité. Je peux l'étudier, je peux essayer de saisir ce que c'est et découvrir qu'en effet, il y a un champ qui est autre chose qu'un chien, qui est autre chose qu'un cheval, et ainsi de suite. Mais j'étudierai ce que c'est que sa cuidité. Alors ça, la species impressa, c'est la détermination fondamentale de la réalité qui, grâce à l'intellect agent, en abstrayant de la représentation la signification profonde de la chose, qui impressionne l'intelligence. Et l'intelligence impressionnée réagit et produit au-dedans d'elle-même le concept. Tout ça, vous voyez, hein, comprenez bien, c'est une reconstruction que je fais. Je n'ai pas l'expérience directe du concept. J'ai l'expérience, je peux saisir l'universel dans le langage. J'ai l'expérience de mon langage. J'ai l'expérience d'un langage qui est à la source, parce que je pense actuellement. Alors, j'exprime ce que je pense. Mais je n'ai pas l'expérience directement. C'est très très important, au point de vue philosophique, de toujours savoir ce qui est expérimenté et ce qui est construit. Une construction légitime, que j'ai posé cette chose-là pour essayer de comprendre la réalité. Qu'est-ce qui est expérimenté? C'est le langage. Pas le langage qui est expérimenté. Normal, quand vous êtes éveillé. Parler quand vous dormez, alors à ce moment-là c'est différent. Mais ce langage est coupé de sa source. Mais normalement, quand vous parlez, vous avez l'expérience de votre parole, d'une parole vivante, c'est-à-dire liée à sa source. Et la parole vivante liée à sa source exprime ce que vous pensez. Et ce que vous pensez, c'est justement le concept qui exprime ce qui est expressa. Qui exprime la quiddité de la chose à travers l'image. Je ne peux jamais penser sans image, mais ma pensée dépasse l'image. Mais je ne peux jamais penser sans image. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai besoin de renouveler un peu mes petits schèmes, mes petites images, dans ce sens-là que les voyages font la jeunesse. Parce que j'ai besoin de nouveaux fantasmes, parce que j'ai toujours les mêmes têtes. Alors, vous voyez, c'est fatigant, c'est évident que c'est fatigant au niveau de la représentation. Mais quelquefois, c'est bon aussi d'avoir toujours les mêmes têtes, parce que ça m'oblige de dépasser la représentation. Quand je suis en face de nouvelles têtes ou d'un nouveau paysage, alors je me repose, je me détends et je reste dans la représentation et je ne pense rien. Trop d'images, pas assez d'images. Hein. C'est extrêmement curieux, ces choses-là. Des images qui sont tellement habituées. toujours en face de moi la même tête. C'est fatigant. C'est extraordinaire. Évidemment, elle peut être plus ou moins rasée, alors ça change un tout petit peu, mais j'ai toujours la même tête. Alors, si je n'ai pas atteint le degré de l'intelligence, si je reste au niveau de l'image, ça me fatigue. Si au-delà de l'image, mon intelligence est en acte, ça ne me fatigue plus. C'est extraordinaire. L'intelligence ne se fatigue pas. Il n'y a pas de fatigue du côté de l'intelligence. Ça, c'est le grand secret. On est fatigué du côté de l'imagination. C'est l'imagination qui me fatigue. L'imagination liée à la passion, ça c'est un fatigant extraordinaire. Ou au contraire, un exaltant, invraisemblable. Mais c'est du même genre. On est fatigué ou on est exalté. Tandis que l'intelligence, elle est au-delà de la fatigue. L'intelligence ne se fatigue pas. C'est très connu, il n'y a pas de fatigue du côté de l'intelligence. L'intelligence n'a pas besoin de dormir, pas besoin de se reposer l'intelligence. C'est mon imagination qui a besoin de se reposer. C'est mon imagination qui a besoin de se refaire. Tandis que plus j'entre dans le domaine de l'intelligence, je suis en face de quelque chose que je peux creuser indéfiniment. L'intelligence, donc, pati, species impressa, et l'intelligence réagit, species expressa. Et elle forme au-dedans d'elle-même le concept. Alors, le concept, je le découvre à partir de la parole. Je le découvre à partir de la signification. Et par la parole, je pose quelque chose qui est source de ma parole, qui est la species impressa, la species expressa. Et cette species expressa implique elle-même la détermination de mon intelligence qui est reliée à la représentation et liée à la chose. C'est tout un circuit, vous voyez, c'est extraordinaire quand j'ai cette pensée. La pensée dépasse l'image, mais se sert de l'image. La pensée dépasse l'image et se sert de l'image. Et ce que je saisis, c'est la réalité. C'est cela que je regarde en premier lieu. Mais j'atteins la réalité par le concept. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un cours. C'est par le concept. Mais le concept n'est pas saisi directement. Mon intelligence ne s'arrête pas au concept. Mon intelligence s'arrête à la réalité. C'est la réalité que je connais. Et je la connais par le concept, par cette forme intentionnelle qui est le concept. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'idéal, l'idéal c'est un cours. Ces expressions de cool, quoi. L'idéal, quoi. Parce que l'idéal, elle est connue en elle-même. C'est toute la différence qui existe entre le concept et l'idéal. Vous voyez cette chose tragique, c'est le jour où les philosophes n'ont plus distingué le concept et l'idéal. Descartes. Alors, ils ont ramené le gros au cours. À la place de connaître la réalité, ils ont connu les idées. Normalement, je connais la réalité et je sais que je connais la réalité par les concepts. Le concept ne m'intéresse pas en lui-même. Il m'intéresse parce qu'il est un intermédiaire qui me permet de connaître la réalité. Mais c'est la réalité qui m'intéresse, c'est pas le concept. C'est fatigant le concept. Ce par quoi je connais. C'est ce que j'ai formé en moi-même. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de connaître la réalité. Tandis que quand il s'agit de l'idéa, au niveau artistique, l'idéa est connue en elle-même. C'est tout à fait différent. C'est quelque chose que j'ai formé en moi en vue de réaliser une œuvre. Tandis que quand je connais la réalité pour elle-même, je connais cette réalité telle qu'elle est et je n'ai pas envie de la refaire. Je veux la connaître. Ça, c'est justement la connaissance de la réalité par le concept. Tandis qu'au contraire, lorsque j'ai une idée qui provient de mon aspiration, je désire réaliser une œuvre. Alors à ce moment-là, l'idéal, c'est ce que je connais et qui me permet de réaliser la chose. Alors, essayons de réfléchir maintenant toute la différence qui existe entre l'idéal et le concept. Je peux donc dire, d'abord, la grande différence, c'est que le concept n'est pas connu en premier lieu. Je ne peux le connaître que dans une attitude réflexive qui me permet d'expliquer la parole. Je pose le concept à cause de la parole, pour préciser quel est le lieu propre de la signification. Donc je pose le concept à cause de la parole, je pose le concept pour essayer de comprendre ce que c'est que l'assimilation intentionnelle de mon appréhension. Ça, j'ai aussi une expérience. J'ai une expérience que quand je connais, je porte en moi la réalité que je connais. Cette réalité que je connais, je la porte en moi. Comment se fait-il que je la porte en moi? Comment expliquer que la réalité que je connais, je la porte en moi? Alors, j'explique par le point de vue de la forme intentionnelle de concept. Tandis que l'idée, si j'ai un peu d'inspiration, je sais quand j'ai des idées. L'artiste est porté par son idée. Il est porté par son inspiration. Et par là, il est capable de réaliser quelque chose. Il verra dans la réalisation même de l'œuvre si l'idée qu'il avait était une véritable idée. Ou si c'était simplement une espèce de l'imagination qu'il a vue. C'est important de saisir ça, que l'idéal se vérifie dans la mesure même où on réalise l'œuvre. C'est pour cela que celui qui dit « Ah, moi je suis un très grand artiste, croyez bien, j'ai des idées extraordinaires, géniales. » Qu'est-ce que vous avez réalisé? Ah, rien. Parce que moi j'aime mieux rester au niveau de l'idée. Alors vous direz, bon, vous êtes un artiste que quand vous réalisez quelque chose. Tant que vous n'avez rien réalisé, vous n'êtes pas un artiste. Vous pouvez être vous pouvez avoir des idées géniales, ça, très bien, ça peut vous nourrir d'avoir ces idées géniales, mais faites attention, vous ne savez pas du tout si ces idées géniales sont de vraies idées, ou si c'est simplement des fantasmes, c'est-à-dire des images. C'est des imaginations que vous avez. Vous pouvez avoir des imaginations remarquables, mais c'est des imaginations. Vous ne réaliserez jamais rien à partir d'une image. Vous ne réalisez quelque chose qu'à partir d'une idée. Les images, vous les portez en vous. C'est un petit cinéma intérieur. Très ennuyeux quelquefois, quand il s'impose d'une façon extrêmement forte, mais c'est un cinéma intérieur. Vous ne réalisez rien du tout. Tandis que l'idée est porteuse d'une réalisation. Et une véritable idée me permet de réaliser quelque chose. Et ceci dans tous les ordres de la réalisation. Quand vous devez réaliser une petite dissertation philosophique, il vous faut avoir une idée. Si vous n'avez pas une idée, vous ne réaliserez rien du tout. Vous direz, ah oui, moi je suis contemplatif. Oui, je suis contemplatif. Très bien, vous ne réalisez rien en disant que je suis contemplatif. Quand vous voulez faire une petite œuvre, avoir une idée, une idée sur ce que vous devez faire. Alors, c'est plus ou moins vague, on sait très bien au début. On dira, mettez à écrire et puis les idées viendront en écrivant. Là, vous mettez à écrire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Ça vient pas du tout. Il faut avoir réfléchi beaucoup avant. Pour pouvoir avoir une idée, c'est comme si vous dites à un peintre, allez-y, prenez un pinceau, des couleurs, et puis allez-y. Mais pas du tout. Il faut qu'il ait d'abord possédé quelque chose en lui. Il est possédé par l'idée. L'idée possède l'artiste. Il est possédé par une idée qui le prend. C'est pour ça qu'on dit que c'est une idée force qui le prend, dans la mesure où il est inspiré. S'il n'est pas inspiré, il n'a pas d'idée. La source de toutes les idées vient de l'inspiration. Vous voyez, la très grosse différence de l'idée, c'est que vous connaissez l'idée d'une connaissance qui peut être très confuse. Ça, c'est très vrai. C'est très rare que les idées se donnent à nous d'une façon très déterminée. Ordinairement, elles se donnent à nous de façon assez confuse. Et c'est en réalisant que l'idée se précise. Et c'est quand l'œuvre est faite que l'idée est parfaitement précisée. Tant que l'œuvre n'est pas faite, l'idée reste vague. Vous voyez ? L'idéa, c'est quelque chose de très très particulier qu'on porte en nous. Alors il faut comprendre que l'idéa, à la différence du concept, c'est ce qui est connu directement. C'est pour ça qu'on dit en scolastique que c'est un croire. Ce qui est connu. Je connais, je porte en moi une idée. Et je peux exprimer cette idée par un petit projet. Faites un petit plan. Quand on a une idée très forte en soi, tout de suite au plan. Ça s'organise très bien. Pas tout de suite. On peut changer un peu, mais il y a quelque chose qui peut s'exprimer. Alors, il faut savoir d'où vient cette idée. L'idée, c'est l'intelligence poétique qui, par l'inspiration, se noue dans l'idée. C'est un nœud. Mais un nœud qui est plus ou moins serré, plus ou moins souple, plus ou moins détendu. Ça, c'est très vrai. Mais il y a des idées romantiques. Alors, le nœud est très, très détendu. Il y a des idées de quelqu'un qui sait très, très bien. Là, c'est très, très déterminé. Ça, le nœud est fort. C'est très, très curieux. C'est que l'idée provient toujours de l'inspiration. Ça naît d'une inspiration. Je porte en moi ça. C'est pour ça que l'idée va toujours être le lien entre la signification et la représentation.